Bon, ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. Content de vous revoir. Et c'est vraiment une bénédiction de voir la famille, je dirais. N'est-ce pas? On est une famille? Amen, amen. Ce matin, avant de commencer, je sais qu'on termine à 12h30, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite, mais avant qu'on commence, comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous avez un téléphone, mettez-le sur silence. Soyez plus intelligent que votre téléphone intelligent. Et ne laissez pas son intelligence déranger votre intelligence pendant ce moment d'étude avec le Seigneur. Et qu'ainsi, nous pouvons donner toute notre attention, toute notre affection à la parole de Dieu. Amen. Et deuxième chose, c'est quoi? Priez pour moi. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Vous êtes prêts? Ok, prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes en cet instant. Alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre cœur. Enseigne-nous dans toute la vérité, car c'est ce que Jésus nous a promis lui-même lorsqu'il enverra son Esprit. Alors que l'Esprit vient nous enseigner, afin que, Seigneur, notre cœur soit rempli de ta parole et que notre cœur aussi soit rempli de ce désir de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Que cela puisse être notre prière, notre désir, et qu'ainsi, Seigneur, durant cette semaine, nous puissions vivre en harmonie avec ta parole. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vais être un peu limité. Donc, ce matin, nous allons voir l'histoire de la Bible, une histoire dans la Bible. C'est Luc, le chapitre 15. Comme vous avez pu le voir, le titre, c'est quoi le titre? Cœur prodigue. Je vous expliquerai pourquoi cœur prodigue. Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Vous y êtes? Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Donc, si on lit l'histoire depuis verset 11 jusqu'au verset 32, verset 32. Nous allons voir la parabole que Jésus est en train de partager avec les Juifs qui étaient là, les gens qui étaient là. Et vous allez voir aussi qu'il y a trois histoires dans ce chapitre qui nous parlent de quelque chose qui est perdu et qui est retrouvé. Mais le chapitre 15 nous parle du fils, ce qu'on appelle le fils prodigue. Mais dans le texte, dans les versets, nous ne voyons pas le mot prodigue en tant que tel. OK? Mais c'est un titre qu'on a donné aux paraboles pour démontrer le fils qui est parti, qui a dépensé tous ses biens, et puis il retourne à la maison. L'histoire va comme ceci. Le fils se lève un matin, il dit à son père, « Tu sais quoi? Donne-moi le bien qui me revient. Donne-moi mon héritage. » Et vous savez, tous ceux et celles qui viennent du Nil, que si vous aurez l'héritage de vos parents lorsque ils sont morts, n'est-ce pas? C'est comme si il est en train de dire à son père, tu sais quoi, je souhaite que tu sois mort, mais vu que tu n'es pas encore mort et que je dois attendre encore je ne sais pas combien de temps pour avoir mon héritage, je préfère l'avoir maintenant. Donc, fais comme si pour moi, tu es mort. Vous savez, moi, dans mon pays, si je parle comme ça à mon père, vous savez qu'est-ce qui vous attend. Mais vous voyez ce qui se passe maintenant, c'est que le fils dit, ok, donne-moi ma part et puis je pars, je quitte la maison. Le lendemain, quelques jours après, la Bible nous dit qu'il ramasse ses affaires et puis il quitte la maison. Il quitte la maison, il part dans un pays lointain. Arrivé là-bas, il dépense tout son argent. La Bible nous dit qu'il vit dans la débauche. C'est-à-dire que pour lui, il avait de l'argent, il pouvait faire ce qu'il veut avec. Dépenser tout. Et maintenant, il n'a plus rien. Il se retrouve face à face avec une famine. Ce n'était pas seulement une famine en tant que telle, comme nous le pensons toutes, il n'y avait pas de nourriture. Il y avait ça aussi. Mais une famine qui nous emmène à comprendre qu'il n'avait plus d'amis à ce moment. Vous savez, quand vous avez de l'argent, vous avez beaucoup d'amis. Mais quand vous n'avez pas, vous n'avez rien. Vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de nourriture, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de famille qui est là. Et voilà, c'est ça qu'il est en train de faire face à ce problème qui est devant lui. Je me sens un peu limité avec ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est en train de vivre une situation qu'il n'a plus rien et que même l'histoire nous dit qu'il est allé travailler et ce n'est pas un travail qui est fait, selon l'histoire, pour un juif de veiller sur les porcs. Il arrive à un point où il sent aussi où il n'a plus rien, tellement qu'il n'a rien à manger, il sent le désir de manger de la nourriture de ses porcs. Et maintenant, rentré en lui-même, il se dit, tu sais quoi? Mon père, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs, il y a des gens qui travaillent avec mon père, mais ils ont de la nourriture en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je sais que mon père ne me reprendra pas comme un fils, mais peut-être qu'il acceptera de me prendre comme un serviteur. Comme ça, je n'aurai pas à rester ici, à essayer de convoiter la nourriture des porcs, mais avoir de la nourriture en abondance et avoir un travail et un lieu, un toit sur ma tête. Il dit, je vais aller vers mon père, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. J'ai pas le droit d'être que tu m'appelles fils, mais prends-moi comme un serviteur. Il retourne à la maison et depuis de loin, le père remarque qu'il y a quelqu'un qui arrive et lorsqu'il regarde très bien, il voit que c'est son fils qui a quitté la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un rotin dans la main, hein? Ou sa ceinture? Non, la Bible nous dit que le père, rempli de compassion, court et se jeta au cou de son fils. Et il appela les serviteurs, leur dire d'amener des vêtements, des souliers, et il met une bague au doigt pour lui donner encore l'autorité qu'il avait dans la maison de son père. Et il n'avait même pas le temps de dire à son père, tu sais quoi, prends-moi comme un serviteur. Il a juste le temps de dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père restaure ce fils qui était perdu et retrouvé aux mêmes positions qu'il avait lorsqu'il avait quitté la maison du père. Et maintenant, voilà que le père fait une fête pour le retour de son fils. Et c'est là où notre histoire commence. Et c'est là où notre message va commencer, ce qui se passe après. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok. À partir du verset 22, Luc le chapitre 15, le verset 22. Merci. Oui, oui, ça marche. Ouais. Merci, Jonathan. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et s'approcha et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. J'aimerais passer quelques minutes sur ces quelques versets de la fin. Nous allons jouer un peu avec les versets. Voilà que l'histoire, on pensait que tout est bien, qu'il finit bien. Mais voilà que l'histoire, Jésus continue l'histoire pour raconter ce qui se passe après. On est en train de fêter le retour du fils, on est en train de fêter le retour du fils perdu et qui est retrouvé, qui était mort et qui est revenu à la vie. Et voilà que le frère, le grand frère arrive du champ, il entend les danses, il entend les chants, il entend la musique et il se demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Pourquoi on fête quelque chose? Est-ce qu'ils sont en train de fêter mon retour des champs? J'ai l'habitude de retourner à la maison, il n'y avait rien. Même pas un tambour, même pas une musique. Et là, il appelle un serviteur, il demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Voilà, le serviteur arrive et dit, tu sais quoi? Ton frère est de retour. Ton frère est de retour, ton père a tellement aimé le retour de ton frère qu'il a fait une fête pour lui, il a tué le veau gras pour lui. Et le verset qui vient après, il dit, il se mit en colère. Est-ce qu'il avait le droit d'être en colère? Il le dit, il donne sa raison pourquoi il était en colère, n'est-ce pas? Le verset 29, à partir du verset 29, il donne une raison. On va voir sa raison. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué le veau gras. » Le veau gras. Ok, donc, il donne sa raison pourquoi il est en colère. Je suis ici, tu n'as jamais rien fait pour moi, mais maintenant ton fils arrive et tu fais quelque chose. Laissez-moi vous poser quelques questions maintenant. Réfléchissons un peu avec l'histoire que nous sommes en train de lire. Lorsque le fils, le petit frère, est en train de prendre la décision de partir, où était le grand frère? Lorsqu'il a quitté la maison et qu'il vivait dans la débauche, où était le grand frère? Lorsque le petit frère vivait sans nourriture, est en train de convoiter la nourriture des porcs, où était le grand frère? À la maison. Et il était le grand frère. Est-ce qu'il a rendu visite à son frère dans le lieu où il était parti? Non. Mais pourtant, il est en colère lorsque son frère est de retour. Chers amis, écoutez ceci. Écoutez ceci, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui arrive. Ou j'ai manqué quelque chose.
Quelqu'un a dit qu'il ne savait pas où est-ce que son frère était.
Ah, ok. 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 Ok, le frère est resté à la maison. Écoutez ceci. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, est-ce que le frère s'est approché du petit frère pour lui conseiller avant qu'il quitte la maison? Il n'a rien dit à son petit frère. Pour lui, si son petit frère quitte la maison, écoutez bien, si son petit frère quitte la maison avec la part qui lui est revenue, donc il a eu sa part aussi, n'est-ce pas? Il a eu sa part aussi, mais il aura aussi la maison de son père. Donc le fait que tu quittes la maison, ça me fait rien. Le fait que tu quittes ce lieu, j'en ai rien à faire avec. Parce que si tu pars, c'est ton problème. Moi, je reste et j'en profite ce que je peux en profiter ici dans la maison du Père. Il y a trop souvent des fois, il y a des gens qui quittent l'église. Mais nous n'avons rien à dire à ces gens. Nous ne leur rendons pas visite à ces gens. Nous ne voyons pas ces gens aller et même parler, conseiller à ces gens avant qu'ils quittent l'église. Et même lorsqu'ils quittent l'église, c'est comme si rien. Une autre âme est partie, une autre personne est partie. Oh, il a quitté l'église et puis c'est fini. Où sont ces gens dans notre vie? Où était le petit frère dans le cœur du grand frère? On parle souvent du fils prodigue, mais on parle jamais du cœur prodigue, celui qui est resté à la maison, mais son cœur n'était pas à la maison. Chers amis, il y a quelque chose qui se passe dans l'église aujourd'hui. On voit des gens arriver, on voit des gens quitter, et ça ne fait rien. Ça ne fait rien, c'est comme si... Des fois, c'est comme un soulagement que cette personne est partie de l'église. Parce que cette personne m'embêtait, ou bien cette personne, je ne l'aimais pas. Cette personne, je ne sais pas. C'est quoi le problème? Mais quel genre d'attitude avons-nous vis-à-vis de ceux qu'on appelle frères et sœurs? On appelle frères et sœurs et puis... Et puis la relation n'est pas là, la communication n'est pas là, la prière pour ces gens-là ne sont pas là. Comment pouvons-nous vivre et dire, tu es mon frère? Comment je peux appeler quelqu'un mon frère? Et puis quand cette personne est en train de prendre une mauvaise décision, ou bien de prendre un mauvais chemin, ou bien de faire quelque chose de mal, au lieu de parler avec cette personne, nous tournons le dos pour lui critiquer. Comment se fait-il qu'un frère peut laisser son frère sans une visite? Il ne sait pas ce que son frère est en train de vivre là-bas. Il n'est même pas allé pour voir, parce que pour lui, il travaillait dans le champ de son père. C'était tellement important de travailler dans le champ de son frère que pour lui, il avait oublié son frère qui mourait sans fin. Vous savez, il y a une autre chose que j'aimerais dire ici. Et j'aimerais que vous me compreniez lorsque je dis cette chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le champ du Seigneur que des fois il arrive d'oublier ceux qui sont juste à côté de nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes tellement impliqués dans le champ que nous oublions la famille, ma famille, mes enfants, mon épouse, mes amis, mes parents. Tellement impliqués que j'oublie l'importance aussi d'être avec ma famille. Mais regardons quelque chose d'autre encore dans ce texte. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il est en train de... Si vous regardez le verset que nous venons de lire, c'est comme si vous voyez dans ce qu'il dit qu'il a déjà renié, je dirais, le petit frère comme son frère. Parce qu'il dit « ton fils ». Et son père va le reprendre dans le verset 32, va dire, c'est ton frère. C'est comme s'il a oublié qui c'était cette personne qui est de retour. C'est comme s'il a oublié cette personne qui est partie de la maison et qui revient maintenant. Et maintenant, c'est plus un frère, c'est plus quelqu'un qui est lié avec moi. Il y a une chose encore. Vous savez, il dit ici, j'étais dans la maison avec toi, je travaillais dans les champs, et puis je faisais tout ce que tu me demandes, et maintenant ton fils arrive, et tu fais une fête pour lui, alors que lui, il a dépensé tous ses biens avec des prostituées. Laissez-moi vous poser une question. Comment sentiriez-vous si vous voyez quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a causé de la peine, qui vous a abandonné lorsque vous avez besoin de cette personne? Si vous voyez quelqu'un qui a causé la peine à l'église, à votre famille, à votre vie ou à vos amis, à votre meilleur ami. Et que vous voyez cette personne arriver à l'église et qui revienne à l'église pour de bon. Comment sentiriez-vous? Est-ce que vous feriez une fête pour eux? Vous voyez l'attitude du père? Le père, oui, il voulait que je sois mort. Oui, il a pris tout son argent, il est parti. Oui, il a fait ça, oui, il a fait ça. Mais il était mort, mais maintenant, il revit. Mais pour le frère, tu es parti, t'es mort, t'es plus mon frère. Et t'as causé de la peine à mon père, t'as causé de la peine à moi-même, t'as causé de la peine à la famille. Mais maintenant, pourquoi tu reviens? Pourquoi t'es là? Est-il possible que même si nous sommes à l'église, chers amis, que nous gardons toujours cette amertume contre quelqu'un d'autre, envers quelqu'un d'autre? Et si demain cette personne arrive à l'église et qui redonne sa vie à Jésus, quel genre d'attitude l'accueilleriez-vous? L'accueilleriez-vous? Avec quel genre de mentalité, quel genre d'attitude, quel genre de sentiment, quel genre de pensée accueilleriez-vous cette personne? Certains, peut-être on pense que c'est correct, c'est ok, il revient, oui, mais tu sais, je veux plus voir cette personne, je peux plus voir cette personne, je peux plus entendre cette personne, je peux même plus la sentir. Et pourtant, nous sommes à l'église. Et on se dit tous, on veut aller au ciel. Qui ne veut pas aller au ciel? Oh, Thomas, il a mal compris la question. Tout le monde veut aller au ciel, mais Laissez-moi vous poser une question, ok? Laissez-moi vous poser une question. Allons dire que vous êtes arrivé au ciel, ok? Vous êtes arrivé au ciel et maintenant vous voyez paraître devant vous cette personne que vous ne voulez plus voir, que vous ne pouvez plus sentir, que vous ne pouvez même pas entendre, même plus entendre. Est-ce que vous pensez que vous allez demander à Jésus de changer de voisinage? Une des choses qu'on doit comprendre, chers amis, c'est que le cœur que nous avons, soit on garde encore des choses contre les gens, soit on laisse tomber et on continue notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas être à l'église et encore avoir de l'amertume contre quelqu'un. On ne peut pas être encore à l'église et toujours ne plus capable de sentir un tel ou un tel. On ne peut pas être encore à l'église et continuer à regarder les autres d'une manière qui n'est pas chrétienne. Et on vient chaque sabbat, on vient chanter, on vient prier, on vient lire la parole de Dieu. Mais cette chose est toujours dans notre cœur. Et nous avons toujours l'objectif que nous serons toujours, que nous serons au ciel un jour. Lorsque Dieu regarde sur la terre, est-ce qu'il peut sauver quelqu'un qui a encore l'amertume dans son cœur? Est-ce qu'il peut toujours sauver quelqu'un qui a toujours ce désir de ne pas parler avec son frère qui est avec lui à l'église? Mettriez-vous votre salut en jeu juste à cause de cela? Qu'avons-nous dans notre cœur pour ces gens? Qu'avons-nous dans notre cœur pour ces personnes? Le verset 30. Le verset 30. Il nous dit ici, « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Laissez-moi vous poser une autre question. Alors que nous avons vu qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans cette histoire, c'est vrai que le fils est parti, maintenant il est de retour. Alors que nous voyons le frère arriver, il se met en colère. Mais sauf que ce que nous comprenons par cette histoire, c'est qu'il n'était même pas là pour son frère. Il n'était même pas là pour conseiller son frère. Il n'était même pas là pour aider son frère. Et deuxième chose que nous avons vu, c'est que lorsque son frère est arrivé, pour lui, c'était plus son frère. Il renie cette personne qui est venue et qui est son frère. Et nous avons vu aussi comment traiterions-nous quelqu'un qui reviendrait à l'église après nous avoir offensés ou même offenser l'Église dans son ensemble. Comment réagissions-nous si cette personne revient à l'Église? Quel genre d'accueil, quel genre d'attitude aurions-nous envers cette personne? La question que je me suis posée lorsque le frère a dit cela à son père, et il a ton frère, lorsque ton fils est arrivé, celui qui a dépensé son bien avec les prostituées, tu as tué le veau gras. La question que je me suis posée, comment il sait que son frère a dépensé son bien avec des prostituées? Il prend des nouvelles. Permettez-moi de vous dire deux choses par rapport à cela. La première chose, il se peut qu'il a pris des nouvelles. Il se peut qu'il a entendu dire que son frère faisait ce genre de choses. Mais le problème ici, c'est qu'il dit à son père, voilà ce fils qui est arrivé, qui est parti avec son bien. Il a dépensé tout ça avec des prostituées. Qu'est-ce qu'il était en train de faire et d'essayer de faire avec son père? Il était en train d'essayer de faire à ce que son père haïsse son petit frère ou bien le remet à la porte, si vous voulez bien. Vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi il dit tout ça à son père? C'est parce qu'il veut que le fils soit mis encore à la porte. Chers amis, des fois, lorsque nous prenons des nouvelles des autres membres d'église, vous voulez que je vous le dise? Lorsque nous prenons des nouvelles de autres membres d'église et que nous entendons leur mode de vie qu'ils sont en train d'emmener, que faisons-nous de ces nouvelles? Il y a un moyen qui va plus vite maintenant, c'est Facebook. Les adventistes n'ont pas de Facebook en tant que tel. Mais les petits blablabla, ça va plus vite que l'éclair. On prend des nouvelles seulement pour critiquer cette personne. On prend des nouvelles juste pour mettre à terre ces gens davantage. On prend des nouvelles pour qu'on puisse dire c'est quoi la nouvelle des nouvelles par rapport à cette personne. On prend des nouvelles pour mettre à terre ceux et celles qu'on a appelés pour un certain temps frères et sœurs. Il prend des nouvelles. Il demande... Oui, une des choses que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que ce qu'il y a, c'est que il prend des nouvelles et puis lorsque le père arrive, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Rentre et réjouis-toi avec nous. Il dit, non, tout ce temps, j'étais là dans la maison. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes. J'étais là à 9 heures pour l'école du sabbat, chaque sabbat. Je travaillais pour toi dans le champ. Et maintenant, lorsque ce fils arrive, la fête est pour lui et non pour moi. Il y a plusieurs choses dans ce qu'il vient de dire. On n'aurait pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Mais... réfléchissez un peu, pourquoi il faisait tout ça? Pourquoi? Est-ce qu'il était un serviteur dans la maison de son père ou il était un fils? S'il est un fils, c'est-à-dire tout est à lui comme le père lui a dit, n'est-ce pas? Des fois, on se considère... Laisse-moi vous poser une question. Est-ce qu'on est fils ou serviteur du Seigneur? Pardon? On est fils? Ok, ne sommes-nous pas aussi appelés à être serviteurs? Ok, nous sommes fils et serviteurs alors. Ok. C'est parce que lui, il se considérait plus serviteur que fils. Mais une autre chose que j'aimerais dire ici, c'est que lorsqu'il prend ce que son frère a fait et qu'il dit à son père, c'est pour essayer de convaincre son père de remettre le petit frère à la porte. Laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis. Nous avons toujours tendance à faire des choses ainsi. Lorsque quelqu'un vient nous corriger, nous essayons d'emmener le péché des autres pour essayer de nous en sortir de même de la situation où nous sommes. Le problème ici, c'est que nous ne sommes pas en train de prendre et d'accepter nos erreurs. Lorsque quelqu'un arrive pour nous dire, hey, écoute, tu as fait mal, tu as mal fait ceci ou cela. Oh, t'as vu un tel, il a fait ça. Oh, t'as vu, lui, il fait ça et toi, tu dis rien. Comment est-ce possible? Tu vois juste moi ce qui se passe dans ma vie ou ce que je fais ici à l'église. N'est-il pas ainsi? Nous sommes plus vite à mettre à terre les péchés des autres que d'accepter notre propre responsabilité et de prendre en tant que personne, d'individu, notre propre responsabilité et de dire « Ok, je suis en tort, j'ai tort et je veux changer. » Nous avons, chers amis, c'est regrettable de dire que on peut être végétarien, mais nous sommes des cannibales concernant le péché des autres. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est ainsi. C'est ce genre de choses qui n'aident pas dans notre progression avec le Seigneur. La question revient toujours, comment il le sait? Comment il le sait? Juste une question encore. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot projection? Ce n'est pas un projecteur qui projette, ok? C'est quoi projection? Pardon? Merci, merci. Ils appellent ça c'est quelqu'un qui l'a inventé. Son nom est Sigmund Freud. Ok, c'est un médecin en neurologie. La projection, écoutez la définition. La projection désigne la projection désigne un mécanisme de défense introduit par Sigmund Freud. Dans le langage, je suis en train de sauter. Dans le langage de la psychanalyse, le terme est devenu très général en psychologie et en psychiatrie. Il désigne l'opération mentale généralement inconsciente par laquelle une personne place sur quelqu'un d'autre ses propres sentiments. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La projection, c'est quelqu'un qui projette sur quelqu'un d'autre ses propres sentiments. Ce que je me suis posé la question, est-ce que vu que le grand frère ne savait pas, peut-être qu'il a pris des nouvelles, on ne sait pas, mais on peut suggérer aussi, c'est peut-être qu'il a fait la projection, peut-être que lui, s'il aurait parti de la maison, c'est ce qu'il aurait fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peut-être que la première chose qu'il ferait lorsqu'il quitterait la maison de son père avec les biens, c'est d'aller vers les prostituées. Donc, au lieu d'accepter ce qu'il avait dans son cœur, il le projetait sur son petit frère. On ne sait pas. La Bible, Jésus dit seulement, il vivait dans la débauche. C'est tout ce qu'il nous dit comme exemple. Il ne rentre pas dans les détails, mais le grand frère, lui, il rentre dans les détails. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église aujourd'hui, mais que leur cœur est toujours quelque part ailleurs. Au lieu de le vivre, ils essaient de le cacher. Peut-être que nous n'avons pas le peut-être que nous sommes là. Oui, je commets pas d'adultère, mais dites-moi si une opportunité se présente. Que ferions-nous? Peut-être que, je ne suis pas en train de voler, mais si une opportunité de se présente, où je sais que à la fin du mois, j'ai ça à payer, j'ai l'autre à payer, j'ai mon prêt à payer, j'ai mes factures à payer, j'ai les enfants à envoyer à l'école, et que maintenant, il y a l'opportunité de prendre quelques billets. On ne joue pas au jeu du hasard, mais si on a la possibilité d'avoir quelques numéros de 649, hein? Nous sommes là. Le fils prodigue Lui, il est parti de la maison. Le grand frère avait un cœur prodigue. Il était dans la maison, mais son cœur était avec quelque chose d'autre. Est-ce qu'il se peut qu'il y a encore d'entre nous qui est assis à l'église aujourd'hui, mais que leur cœur est toujours attaché à quelque chose de ce monde? Et que nous aimons tellement que nous ne voulons pas, et que s'il y avait une opportunité, nous l'aurions fait. Ni vu, ni connu. Ni connu. Comme le dirait en anglais, notel, motel. Je ne peux pas le traduire en français. Mais ce que je suis en train de vous dire, chers amis, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adventistes aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui sommes assis dans l'église, mais notre cœur est toujours avec les choses de ce monde. Quand est-ce qu'on aura la victoire là-dessus? Quand est-ce que le monde sera seulement le monde et Dieu sera Dieu dans notre vie? Quand est-ce que nos cœurs pourraient dire, « Ok, ce que je suis en train de chérir n'est plus bon, il faut que je te rejette de ma vie. » Quand est-ce que je prendrai la décision de dire, « C'est quoi? Même s'il y a une opportunité, je ne le ferai pas, par la grâce de Dieu. » Chers amis, lorsque nous approchons de la venue de notre Seigneur, regardons notre vie personnellement. Où en sommes-nous dans notre marche? Sommes-nous en train d'avoir les mêmes caractéristiques que le grand frère? Avoir les mêmes attributs, les mêmes attitudes, les mêmes sentiments pour les autres ici? Ce matin, je pensais à Étienne. Vous connaissez Étienne? Étienne, en anglais, c'est Stephen. Celui qui est lapidé, le diacre qui était lapidé dans Actes des Apôtres. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ok. Je pensais à Étienne ce matin. Je me disais comment... Des fois, on pense... Comment ça va être au ciel? Mais comment ça va être au ciel pour lui lorsqu'il sortira d'entre les morts et puis il se met debout pour aller vers l'éternité, pour aller au ciel? Et puis il est en train de regarder tous les rachetés du Seigneur. Il regarde ce qui se passe, les gens qui ont été sauvés, les expressions des gens, la joie des gens, tous ceux et celles qui ont été sauvés. Et puis il regarde et il voit quelqu'un qui a une silhouette qu'il a déjà vue juste avant de mourir. Et lorsque maintenant il arrive à ce moment précis, il regarde, il voit que c'est quelqu'un qu'il a déjà connu, mais il ne voit pas le visage encore. Essayez d'imaginer, il ne voit pas le visage, il arrive, il s'approche de cette personne, il lui tape sur le dos et la personne se retourne et bouf. Devinez c'est qui? Saul de Tarse. Que pensez-vous il va faire? Il va dire, Seigneur, écoute, je pense qu'il y a une erreur avec ce gars-là. C'est lui qui m'a lapidé. Pensez-vous qu'il va faire la même chose que le grand frère a fait? Il a fait ça, il a tué tant de personnes. Comment il peut être là en cet instant? Vous comprenez? Mais j'essaie d'imaginer un peu la réaction. Il veut dire, Saul, c'est toi? Comment ça se peut? Ça se peut pas. Mais je suis content quand même que tu as pu être là, que tu es là aujourd'hui. Et j'essaie d'imaginer Paul un peu pour lui dire, Étienne, tu sais quoi? Je te remercie pour ta fidélité jusqu'au bout. Je te remercie aussi pour ta dernière prière que tu as faite juste avant de mourir. Vous savez, la dernière prière d'Étienne, c'était quoi? Pardonne-leur. Quand arriverons-nous, chers amis, à avoir cette attitude? C'est cette attitude que Étienne avait. C'est cette attitude que ceux qui auront cette attitude iront au ciel. Ma prière pour chacun d'entre nous cet après-midi, c'est que nous puissions posséder cette attitude et que nous prenions plus soin les petits du troupeau. Laissez-moi vous poser une question. Qui d'entre vous veut dire, Seigneur, tu sais quoi, je veux faire un effort. Je veux au moins, tu sais, ce que j'ai dans mon cœur jusqu'à présent contre quelqu'un ou une personne qui est ici dans l'église ou bien quelqu'un de ma famille, si j'ai quelque chose contre cette personne, je veux que cela sorte de ma vie. Parce que je ne veux pas mettre en danger mon salut. Si c'est là votre désir, chers amis, mettons-nous debout et on va prier ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi en cet instant. Nous n'avons rien, Seigneur, en nous-mêmes qui puisse te faire plaisir en cet instant. Car lorsque tu regardes notre cœur, Seigneur, comme Jérémie nous dit que notre cœur est ôtieux. Seigneur, des fois, nous ne savons même pas ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre vie. Et lorsque nous regardons cette histoire, cette parabole que Jésus lui-même a partagée, Seigneur, nous prenons conscience de ce que nous avons les mêmes attitudes que le grand frère. Nous n'avons pas été à la hauteur de nos responsabilités. Nous n'avons pas aimé ceux qui reviennent. Nous n'avons pas eu cet amour profond qui provient du ciel lorsque nous avons regardé sur quelqu'un qui a quitté l'église ou bien sur quelqu'un qui est sur le point de quitter ou même sur quelqu'un qui nous a offensés. Seigneur, trop souvent des fois, nous gardons cette amertume dans notre vie. Trop souvent des fois, nous avons cette attitude dans nos vies, mais nous ne voulons plus continuer ainsi. Alors que nous approchons de la fin, nous approchons de ton prochain retour, nous sommes en train de le chanter, nous sommes en train de chanter « Voir mon Sauveur face à face », mais est-ce que je verrai mon Sauveur face à face pour l'éternité ou pour être détruit à jamais? Seigneur, mon désir est le désir de mes frères et sœurs. Ce matin, c'est que tu enlèves de nos cœurs ce qui met en danger notre salut. Nous ne voulons pas, Seigneur, que dans notre livre à nous, qui comporte notre nom, il y a un endroit où il n'y a pas écrit « pardonner ». Mais nous voulons qu'aujourd'hui, Seigneur, alors que je veux faire silence et continuer après cette prière, que mes frères puissent te dire dans leur cœur ce qu'ils ont et qu'ils te confessent ce qu'ils ont à te confesser. Afin que, Seigneur, nous puissions être droits devant toi. Alors que, Seigneur, tu as écouté et tu écoutes encore le cœur de chacun de tes enfants, je prie maintenant, alors que nous avons confessé, aide-nous à rester fermes et à ne pas laisser les choses rentrer dans notre cœur et rentrer dans notre vie pour nous détruire et détruire les autres autour de nous. Que à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher comme le Père, celui qui est rempli de compassion, celui qui est rempli d'amour, celui qui ne regarde pas les gens avec leurs péchés, mais qui regarde les gens sans leurs péchés. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous dans notre marche et sauve-nous, s'il te plaît. Sauve-nous, Seigneur. Merci de nous écouter. Merci de ce que cette parole va nous aider à progresser dans notre marche, à faire un pas de plus avec toi. Et merci, Seigneur, de nous aimer d'un amour éternel. Toutes ces grâces, nous t'avons demandé au nom de Jésus. Amen.